Vous suivez les programmes de la station qui prend la paix et le développement. Radio Ndikiluka, il est 13h. Le journal, c'est avec Inès Laure-Ngopo. Inès Laure, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane et bienvenue à tous dans cette édition. Voici les titres. Le commissaire adjoint de Babwa, dont la Nana Mambéré, agressé mercredi par des éléments en russe présents dans la localité, à suivre son témoignage au début de ce journal. Au moins 17 personnes décédées suite aux difficultés d'évacuation sanitaire à Cabo. C'est la conséquence d'un retrait de Médecins Sans Frontières le 29 janvier dernier de la ville. Et puis plainte des demandeurs de la carte nationale d'identité de la commune de Bégoua. Selon eux, les agents de police leur demandent 1000 francs ou 2000 francs CFA avant de les enregistrer. Football à boire dans la Namambéré, 5 clubs sur 10 s'engagent à participer au championnat qui démarre aujourd'hui au stade Zariaman.
Inès, nous ouvrons ce journal avec l'agression avant-hier du commissaire adjoint de la police de Babwa dans la Nana Mambéré.
Il a été frappé à coups de bâton par des soldats russes en mission dans la ville, d'où serait partie d'une incompréhension autour de l'utilisation des toilettes. Le lieutenant Marcel Serdin Digakwa, qui en est sorti avec une fracture ouverte à la main gauche, témoigne au micro de Radio Ndikiluka.
Au niveau du commissariat, j'étais sur un dossier que je traitais et j'étais pris par le besoin d'aller pisser. Je suis sorti du bureau, il y a une vieille toilette à côté et puis la nouvelle qu'on a construite aussi. Ce n'était pas les Russes qui ont fait ça, mais c'était des emplacements d'avance avant qu'ils n'arrivent. Alors juste le temps de côtoyer la douche pour chercher à me soulager, le soi-disant commandeur, c'est lui le chef là, il m'a interpellé, il me dit, mais non, c'est pas ici que je devrais uriner. Je dis, mais qu'il m'excuse. Il dit, mais non, c'est pas ici, ce n'est plus ici qu'il faut uriner. Et voilà, il s'est approché, il a commencé par me gifler. Je barrais les coups, il continuait, je barrais les coups. Tout de suite, il a appelé ces éléments dans leur langue et je vous dis que c'est Dieu qui m'a gardé, sinon je trouvais la mort hier même. Ils se sont urinés sur moi, plus d'une dizaine de personnes armé de bâtons. Il me tapait avec des bâtons jusqu'à ce que j'ai cette fracture au niveau du bras gauche. Une fracture ouverte et puis, je ne sais pas, des os aussi, tout ça.
Mbongi n'a pas encore réagi à cette agression qui devient de plus en plus fréquente entre les forces de défense et de sécurité sud-africaines et leurs alliés russes à l'intérieur du pays.
Et puis Inès, la santé des habitants de Cabo dans l'Ouame en danger après le retrait de Médecins Sans Frontières le 29 janvier dernier de la ville.
L'hôpital de Cabo ne dispose pas sur place de médicaments. Selon les autorités locales, au moins 17 personnes sont déjà décédées pour manque de soins et difficultés d'évacuation sanitaire. Abdel Akis Mahamat, maire de Cabo, interpelle le chef de l'État à voler au secours de la population détresse. Il est au micro de Igor Diaskin-Senapai.
Là, la situation reste toujours parce qu'il n'y a pas de changement. Sinon, on a en train de compter les morts. On doit compter 16 parce que les gens morts en quartier, on n'est pas à l'hôpital par jour, 1 ou 2 ou 3 personnes mortes. Donc, vraiment, quant à nous, on doit faire 16 à 17 personnes qui sont mortes. Et puis le départ de MSF. Ici à Cabo, c'est depuis 2006 que MSF prend l'hôpital en charge. Comme MSF est le personnel pour l'État, seulement 2. Il y a un qui est le chef de centre et le deuxième, c'est un sage-femme. Mais il n'y a pas de médicaments. Et puis 2 seulement pour eux. Ce n'est pas un poste de santé, c'est un hôpital secondaire. En tout cas, mon message, ce message de population de Cabo, on a vraiment lié à devant le chef de l'État, notre président, doit voir ça rapidement parce que sinon on compte les morts jour en jour. Nous avons donc le président de la République a vraiment regardé ça.
Le monde célèbre ce 11 février la journée des malades au moment de soutenir les malades. En République centrafricaine, les malades déplorent les conditions de prise en charge et surtout l'accueil dans les centres de santé. OG Aubert Vouplayanwa.
Instituée par Jean-Paul II en 1992, cette journée mondiale des malades est célébrée le jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes. Selon Benoît XVI, il est important de ne pas les laisser dans l'abandon et dans la solitude, alors qu'ils devraient affronter un moment aussi délicat de leur vie. C'est ce qu'expriment ces malades rencontrés à l'hôpital.
Notre préoccupation majeure vient du fait que nos médecins ne sont pas ponctuels. Nous venons très tôt à l'hôpital. On nous demande de venir tôt. Nous arrivons à 6h, 7h, parfois jusqu'à 10h. Nous prions le ministre de la Santé de se souvenir de nous autres malades. Que le personnel soignant vienne à temps pour s'occuper de nous.
Comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. malade, nous prions que le gouvernement ne nous oublie pas. Nous n'avons pas de moyens. Nous avons besoin de soutien pour nous procurer des médicaments pour notre santé.
Nous nous attendons à recevoir des produits que l'on devrait donner gratuitement aux démunis. Par exemple, je suis déjà admis à la retraite. Je paie 30 000 francs pour l'échographie. Je n'ai plus d'argent. Que vais-je faire? Le ministère de la Santé devrait s'occuper des personnes démunies en attendant leur dernier jour.
Par exemple, nous qui souffrons de maladies cardiovasculaires, nous n'avons pas assez de souffle. Que devons-nous faire? Donnez-nous des médicaments.
Je suis malade. Il faut gouvernement penser.
Nous attendons un changement dans le traitement des patients. C'est la journée des malades. Il convient bien de le mettre dans de bonnes conditions pour le soigner.
C'est une occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.
Voilà plus de 8 ans qu'elle est décédée après être violentée par des rebelles de la Séléka à Bombari. Où en sommes-nous avec les enquêtes sur la mort de la journaliste Elisabeth Olofio?
Difficile de le dire pour le moment. Des organisations de défense des droits des journalistes telles que Free Press dénoncent le silence et la non-poursuite des auteurs de crimes par le gouvernement. Hier, en prélude à la célébration de la journée mondiale de la radio prévue ce 13 février, le comité ad hoc pour la protection des professionnels des médias a saisi l'occasion pour présenter les résultats de son enquête. Le point avec Astrid de Bonheur Kolingué.
Elisabeth Blanche Olofio travaillait à la radio Béoko, une radio communautaire catholique à Bombari. En janvier 2013, elle a été brutalement frappée, torturée et violée par des rebelles de la Séléka. Transférée à Bangui, elle succombera à ses blessures en juin 2014 à l'âge de 34 ans. Aujourd'hui, Bertie, sa fille aînée, a 20 ans. Elle demande que justice soit faite.
Je voudrais que les autorités veillent sur nous et fassent que la justice soit faite sur la mort de notre mère.
Dans leur rapport, les organisations de défense des droits des journalistes telles que Free Press, Comité de protection des journalistes et reporters sans frontières dénoncent la non-poursuite des auteurs des violences faites à Elisabeth. Des journalistes continuent d'être violentés selon Rosemont Zokwe, président de l'association des blogueurs de Centrafrique.
Aujourd'hui, on parle de notre défunte collègue Elisabeth Olofio, mais il y a d'autres cas aussi. Et tous ces cas font partie des risques que les journalistes ou les professionnels des médias traversent quotidien. Et ces cas sont généralement restés impunis. Pour nous aujourd'hui, c'est la question de la sécurité des journalistes. Les autorités de la République doivent prendre leurs responsabilités. Tout ce que nous demandons, c'est que ces textes soient appliqués pour que les journalistes puissent travailler en toute sécurité, en toute quiétude.
En 2021, la République centrafricaine est classée 126e dans le classement de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Les professionnels des médias appellent les gouvernants à garantir la sécurité des journalistes.
Cependant, Jérôme Donné, adoté journaliste à la retraite, invite ses confrères encore en exercice à se méfier de la politique.
Âgé de 85 ans, l'ancien directeur général de Radio Centrafrique et ancien haut conseiller à la communication rappelle que la politique et le journalisme sont incompatibles. Interpellation faite en marge de la journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février. Il est interviewé par Armand Ngendi.
C'est des trucs qui sont toujours monnaie courante. Il y a des ministres qui menacent même les journalistes parce qu'ils ont des amis, des journalistes. Ils sont amis au président, amis au ministre et ils menacent les journalistes. Le journaliste doit savoir que la politique menace le plus souvent le journaliste. Il pense que le journaliste est contre lui. Or, le journaliste, il suit les conseils de la rédaction, il met en route les consignes de la rédaction, c'est ainsi qu'il travaille. Mais il ne doit pas s'intéresser à la politique. Parce que la politique, ce n'est pas son chemin. Lui, c'est la déontologie.
Notons aussi qu'à l'occasion de la journée mondiale de la radio qui sera célébrée ce dimanche 13 février, Radio Ndikiluka vous propose aujourd'hui un programme spécial. Toutes nos émissions aujourd'hui sont consacrées à cette journée. L'invité de la rédaction Table Ronde des Matins de Ndikiluka, à vous de jouer, à vous la parole ou encore Parole d'enfant et Monsec Attitude. C'est à suivre en fil rouge sur votre radio.
Voilà, Radio Ndikiluka, les programmes se poursuivent, le journal aussi se poursuit. Les demandeurs de la carte nationale d'identité de la commune de Bégoua continuent de subir des tracasseries dans le dépôt des dossiers.
Selon eux, les agents de police leur demandent 1 000 francs ou 2 000 francs CFA avant d'enregistrer leur dossier. Emmanuel Samboli.
Plusieurs problèmes freinent l'enregistrement des demandeurs de carte nationale d'identité à la mairie de Bégoua. D'abord, seulement 30 personnes peuvent être enregistrées dans la journée. Un demandeur témoigne.
Ça fait même 3 jours.
Ça fait déjà 3 jours que je fais des va-et-vient pour déposer mon dossier. Les agents distribuent 30 fiches par jour. Et après, ils ouvrent une liste. Chacun s'inscrit. À la fin, ils demandent aux autres de rentrer chez eux.
En plus du nombre limité de dossiers, il semble qu'un système de corruption est mis en place par les agents d'identification. Il demande 1 000 francs ou 2 000 francs pour le traitement des dossiers. Louise est l'une des victimes.
C'est avec cet acte de naissance que je souhaite faire la carte d'identité. Arrivé ici, j'ai tenté durant 3 semaines et quelques jours pour le déposer, mais en vain. Je suis obligée de mettre une somme de 2 000 francs dans le dossier pour qu'il soit accepté. Les agents prennent un effectif de 10 à 30 personnes et ils arrêtent. Même dans le bureau, ils ne nous respectent pas.
Le président de la jeunesse de Bégoua affirme avoir reçu des plaintes de ses demandeurs, mais son bureau observe encore la situation. Christopher Michael Grimali.
Malgré décentraliser les trucs qu'on sort là, jusqu'alors, il n'y a pas de changement. Il y a toujours des conditions dures. Les demandeurs viennent, les jeunes viennent, on refuse leurs documents. Toujours on demande quelque chose, ça perdure. Mais pour l'instant, on est en train d'observer pour un moment donné. Si ça ne marche pas, on va demander à un moment donné au DSPJ ou bien à El Madina d'enlever l'autre là. Encore ici, c'est mieux. Comme ça, on va se battre. Ailleurs, c'est encore mieux.
Les agents de police du centre d'identification de Bégoua reconnaissent l'insuffisance des fiches qui se limitent à 30 par jour, mais se réservent de se prononcer sur les 1 000 francs ou 2 000 francs de frais de traitement des dossiers.
Actualité hors de nos frontières, la Cour pénale internationale rejette la demande de réparation de Charles Blé Goudé.
Charles Blé Goudé ne touchera aucune compensation pour les huit ans passés en prison. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté hier sa requête. Définitivement acquitté de crimes contre l'humanité, l'ex-chef des jeunes patriotes réclamait près de 820 000 euros de dommages à la Cour.
Et puis l'Union européenne promet plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique.
La présidente de la Commission européenne en visite à Dakar au Sénégal a annoncé un important plan d'investissement pour le continent, plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe. C'est le tout premier plan régional. Jusqu'en 2030, l'investissement visera les énergies renouvelables, la réduction des risques de catastrophes naturelles, l'accès des Africains au réseau Internet, au transport de la santé et l'éducation. La page pour une présentation de Claire Assamadenga. Bonjour Claire.
Bonjour Inès Langopo. Bonjour à tous.
Football, le championnat retour de la Ligue de Bangui se poursuit au stade Barthélémy Bouganda.
Tout à fait Inès, en ce moment, en deuxième division, UFC 5 joue contre AC Dugobongo. À 15h en première division, SCAF va affronter AS Mbangré. Hier, Sika Sport a eu raison de jeunesse sportive de Boeing sur la petite marque d'un but à zéro. En première division, ASOPT a battu Espoir Club de Bégoua sur le score de 3 buts à 1.
Football en province à Boire, dans la Nana Mambéré, 5 clubs sur 10 s'engagent désormais à participer au championnat qui démarre aujourd'hui au stade Zahir-Yerman.
Il s'agit de Sporting Club de Boire, SCB, Les Abeilles, le Tonnerre Clarara de Centrafrique TKC, le Scorpion Rouge et le Real CBCIA. Selon le calendrier du championnat, le match d'ouverture va opposer Fatima et Abeille aujourd'hui à 14h. C'est la phase retour du championnat de la Sous-Ligue de Boire qui va démarrer dans un contexte où les 9 clubs de Boire demandent la démission du président de la Ligue de football de la Nana Mambéré le mois de janvier dernier. À Bambari, Inès, c'est le démarrage cet après-midi de la 16e journée du championnat en senior masculin au stade municipal à 15h. Coton Sport joue contre Real Comboni.
Football enfin, le challenge du collectif des vétérans se jouera ce dimanche à Bangui.
Cette rencontre est prévue au lycée de Fatima dans le 6e arrondissement pour clôturer les activités de l'année.
Changeons de discipline, cette fois-ci du handball, la deuxième journée du championnat de la Ligue de Bangui démarre aujourd'hui.
Effectivement, Inès, un seul match est prévu sur le terrain de l'INJS à 15h30. Padre Pio va affronter Force de Défense et de Sécurité Handball Club.
Parlons de la boxe, Sylvain Demba alias Faya, ancien boxeur international et instructeur de boxe, est nommé entraîneur national adjoint le mercredi passé.
Il va s'occuper également du développement de la boxe professionnelle chez les hommes et femmes. Une décision prise ce mercredi par le président de la Fédération centrafricaine de boxe. Restons dans cette discipline, Inès, pour annoncer une activité demain au complexe sportif Barthélémy Bouganda. Un gala de boxe pour la sélection des membres de l'équipe nationale centrafricaine aura lieu à 15h.
Merci à vous Claire Assamba-Denga. Ainsi s'achève ce journal en français sur les 100.9 FM, Radio Ndekiluka, journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. La version Sango, c'est tout de suite.